18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Benoît Dutertre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de publier chez Gallimard l'ordinateur du paradis qui est sur la liste, la première sélection du prix Goncourt. J'imagine que vous êtes dans vos petits souliers. Et ça fait penser à cette phrase de Barbey d'Aurevilly, pour le climat je préfère le paradis, mais pour la compagnie je préférerais l'enfer. Vous, pour les deux, c'est l'enfer.
Oui, c'est ça, oui. Enfin, oui, l'enfer d'ailleurs est plutôt un petit peu mieux que le paradis dans mon livre, parce que le paradis étant passé sous le régime des normes modernes, il n'est plus tellement fréquentable. Mais je connaissais pas la phrase, elle est jolie en tout cas.
Alors votre programme commence avec Richard Strauss,
oui,
auquel vous avez consacré un très beau chapitre dans votre livre précédent. C'est un compositeur que vous aimez beaucoup.
Que j'adore, et curieusement, qui n'était pas du tout dans ma culture, j'ai envie de dire, classique, de base, familiale, de jeune apprenti pianiste ou autre. Richard Strauss était absent, je l'ai découvert tard. Et puis, plus le temps passe, plus j'adore sa musique. Je crois que c'est le compositeur que j'écoute le plus aujourd'hui. C'est une musique qui rend heureux, c'est une musique jubilatoire, c'est une musique riche, généreuse, qu'on classe souvent dans la suite du romantisme, comme Bruckner, Mahler, à la fin, après Wagner. Mais en fait, dans l'esprit, c'est un peu le contraire. C'est vraiment une musique du bonheur pour moi.
C'est le fils de Mozart, un peu.
C'est le fils de Mozart et de Wagner. C'était un drôle de croisement, parce que le langage harmonique est très wagnérien, mais l'élan, effectivement, est totalement mozartien.
Alors, c'est le début de Don Juan,
oui,
de Richard Strauss, par un très grand chef, dont le nom était un peu oublié, mais qui dirige ça comme personne, c'est Rudolf Kempe.
Oui, qui a fait une quasi-intégrale de Strauss, qui est sublime. Mais là, ce qui est beau, c'est pour ça que j'ai choisi Don Juan, parce que c'est en très peu de temps, en quelques minutes, là, on a les deux côtés. C'est-à-dire, il y a cet élan d'abord, et puis après, il y a cette volupté, ce truc totalement planant, avec les cordes divisées, les grands accords tenus. Enfin, moi, je baigne là-dedans, comme dans le bonheur. Et sans doute que dans mon goût pour Strauss, il y avait aussi un peu de provocation, parce que c'est vrai que j'étais d'une génération où il fallait trouver que Mahler, c'était grand, c'était profond, et que Strauss, c'était un peu facile et superficiel. Et moi, cette musique du bonheur, je la trouve pas facile et superficielle. Pour moi, c'est une espèce d'exemple à suivre.
Benoît Dutertre, l'ordinateur du paradis qui vient de paraître chez Gallimard. Alors, ce paradis, stupeur et consternation, ce paradis a évolué avec le politiquement correct de notre époque. C'est-à-dire qu'on arrive, ça parle anglais d'abord. C'est très encombré, le paradis. On s'imagine que c'est immense et que c'est l'infini. Pas du tout. Ça manque de place, donc votre personnage reste au purgatoire. On parle anglais, on n'a pas le droit de fumer ni de boire.
Voilà, il y a des salles d'attente, hein, avec des chaises en plastique orange, vous savez, comme dans les administrations, et puis aussi des plantes vertes, et puis des posters pour faire rêver les gens où il y a marqué Bienvenue au paradis. Et ce qu'on voit comme étant proposé comme paradis, apparemment, c'est des grandes tours un peu comme à Dubaï, vous savez, au bord de la mer, avec des fausses plages artificielles. Et donc mon héros arrive là-dedans. Effectivement, il doit remplir une série de questionnaires en plus. Vous savez, qui ressemble un peu au questionnaire qu'on remplit quand on va aux États-Unis, la fiche verte, avez-vous été condamné pour génocide? Alors là, c'est j'ai mis ça au goût du jour, avez-vous été condamné pour harcèlement sexuel, etc., etc. Et donc, toutes les normes de l'époque sont passées au paradis parce que, en fait, j'ai écrit ce début du livre vraiment comme une fantaisie, mais je pense que le paradis a toujours été un peu une représentation du temps où on l'imaginait, hein, le paradis baroque des grands peintres baroques, ben voilà, c'est quelque chose qui ressemble à un château du XVIIe siècle. Et mon paradis, ben, il ressemble beaucoup à la société d'aujourd'hui. Il est normalisé, effectivement, faut parler anglais, on n'a pas le droit de fumer. Hein. Alors, ça pose un problème parce que le paradis, normalement, c'était le lieu de toutes les voluptés qu'on nous avait promises, mais là, ce sont des voluptés qui sont quand même pour notre bien. Et pour notre bien, il y a certaines voluptés dont il faut se passer, etc. Donc mon héros va évidemment...
Beaucoup d'interdits. Justement.
Beaucoup d'interdits, comme de boire de l'alcool aussi. Et puis il y a aussi effectivement, il y a des listes d'attente parce que il y a une forme de surpopulation au paradis, vu que la population terrestre augmente beaucoup aussi. Donc il y a une espèce de paradis 5 étoiles qui est réservé en fait à ceux qui ont déjà eu l'habitude sur Terre d'un certain confort, et puis ceux qui ont vécu dans les camps de réfugiés et autres, on se dit on va les mettre dans un paradis d'attente puisqu'ils sont habitués au fond, etc.
Alors tout compte dans le paradis, c'est-à-dire que Saint-Pierre et ses sbires ont accès à tous vos comptes Internet. Voilà. Donc, si vous avez téléchargé des images un peu pornographiques, disons le mot, cela est comptabilisé.
Ben oui, parce que finalement, Saint-Pierre qui règne sur cette grande maison en pleine
réforme, qui est complètement dépassé,
mais qui est quand même devant ses écrans d'ordinateur, qui essaie de gérer les choses, s'est aperçu qu'au moins, s'il veut des renseignements fiables sur la vie privée de chacun, le mieux c'est d'aller voir dans le cloud. Vous savez, le cloud, on en parle beaucoup en ce moment avec ces photos dénudées de stars qui ressurgissent, on ne sait pas comment, c'est un peu pareil. Les informations qui entrent sur Internet sont immortelles, j'ai découvert ça avec stupeur après des années d'utilisation.
Donc on croit que ça a disparu, mais on peut toujours vous les refourguer sous le nez.
Exactement. Et en fait, un peu à l'origine de ce livre, il y a une petite expérience que j'ai eue, que je raconte avec mon héros, qui est, vous savez, j'ai fait souvent sur mes logiciels de courrier, je détruisais tous mes vieux courriers. Et je sais pas pourquoi, il y a un de ces logiciels que j'utilisais, et les vieux courriers que j'ai détruits reviennent tout le temps. C'est comme s'ils voulaient pas mourir, mais je veux dire, tout d'un coup, je vois 4000 messages qui sont en train de se télécharger, et c'est ceux que j'ai déjà détruits deux ou trois fois au cours de l'année. Et donc voilà, tout ça m'a fait imaginer ce Saint-Pierre qui va chercher effectivement les turpitudes de tout un chacun, là où on est sûr de pouvoir les trouver pour toujours. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est enregistré pour toujours, c'est sur Internet.
Est-ce que la fantaisie, Benoît Dutertre, la légèreté, l'humour, la comédie, ouais, telle que vous l'aimez, telle que vous l'écrivez, part toujours d'un constat tragique, d'une peur, d'une terreur ou d'un dégoût?
Oui, C'est assez curieux parce que je vous disais à propos de Strauss, mon goût de la volupté, du bonheur, etc. Alors, dans mes romans, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que dans un certain côté, c'est des choses, j'espère, assez jubilatoires, assez drôles. Et en même temps, c'est toujours une forme d'humour noir, hein. C'est toujours quelque chose d'un peu effrayant. Voilà, ça c'est ma veine, c'est peut-être celle souvent de la littérature, mais moi c'est partir des petits détails de l'époque et les mettre les uns au bout des autres, les augmenter un petit peu et tout d'un coup montrer comment un personnage peut être pris dans un engrenage effrayant. Et essayer de faire rire avec ça. Bon, c'est le principe de... Ouais, je dis de l'humour noir, mais c'est presque le principe du burlesque, hein, je veux dire.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de libérateur pour le lecteur? C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes empoisonnés par ces interdits, ce politiquement correct, ce convenable, c'est toutes ces muselières qu'on nous met, tous ces empêchements, finalement, qui nous empoisonnent l'existence. C'est un effet libérateur.
J'espère. C'est-à-dire, c'est l'intérêt du rire qui est quand même au cœur du plaisir littéraire. C'est le rire du regard qui comprend quelque chose. Et effectivement, ça m'agace parfois un petit peu quand on dit que ce livre est une fable. Enfin, je suis pas tout à fait contre, mais une fable, ça veut dire qu'il y aurait une morale au bout. Non, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de leçon. Mais par contre, j'espère qu'à plusieurs moments, des choses qui sont de notre vie quotidienne, tout d'un coup, nous provoquent une espèce de rire un peu d'effroi et de plaisir à la fois. Et ça, c'est effectivement déjà peut-être le début d'une forme de regard critique.
Alors, votre héros, Simon, Benoît Duteurtre, alors en plus, c'est très drôle parce qu'il est rapporteur dans la commission des libertés publiques. Voilà. Il est invité sur un plateau de télévision.
Donc, non, de radio, mais où il y a une caméra, comme voilà. Souvent... de nos jours.
Pas dans Passion Classique. Non, donc, ah bon, soyez rassurés. Dites toutes les horreurs que vous voulez à micro fermé. Ça ne se retrouvera pas sur Internet. Mais, donc lui, à un moment donné, il dit, il a un mouvement d'humeur. Il dit, oh là là, je commence à en avoir marre de la cause des femmes et des gays. J'en ai marre de tous ces agités. Comme n'importe qui pourrait le dire à n'importe quel moment, face à un discours parfois trop brutal, trop
jusqu'au boutiste,
trop
oui.
Jusqu'au boutiste ou trop communautariste.
Ouais.
Et tout d'un coup, ce message se retrouve, ça a été filmé et ça se retrouve sur Internet. Et là, c'est une catastrophe parce que c'est un alali, enfin c'est sur une sorte de il devient l'homme à abattre.
Voilà. Et d'autant plus qu'il a tenu un propos, en fait, oui, comme vous dites, qui est relativement nuancé, mais il le dit dans un mouvement d'humeur, hors antenne, donc il plaisante avec la journaliste, avec qui il se sent en confiance, comme ça, il dit, voilà, j'en ai marre de la cause des femmes et des gays. Non pas, parce que il est contre cette cause, mais il pense que, voilà, les progrès sont en marche et qu'il y a une espèce, effectivement, de surenchère. Et donc, il y a toute sa phrase est une phrase assez longue où il développe une idée nuancée, mais dans la version qui a été filmée à son insu et qui se retrouve sur Internet, il reste plus que le début de la phrase. J'en ai marre des femmes et des gays.
Donc il apparaît comme un monstre.
Il apparaît comme un monstre. Et cette chose circule et provoque des réactions et il devient effectivement l'homme à abattre. Et ça, très honnêtement, non seulement la phrase tronquée, mais le piquage d'un truc privé, ce sont là encore des choses de la vie quotidienne aujourd'hui qui, moi, m'effraient. Je me rappelle à propos de phrases tronquées, par exemple Pascal Sevran qui avait fait soi-disant cette interview qui a été terrible à la fin de sa vie, où il parlait des Noirs, etc. C'était un montage de pure pièce, de petits bouts de phrases pris dans diverses interviews. Pour ce qui est de l'espionnage, je me rappelle l'affaire Hortefeux. Moi, j'ai pas spécialement de sympathie pour Hortefeux, je connais pas, et peut-être ses propos étaient très déplaisants, très lourds, mais c'était filmé, cette mauvaise blague, c'était filmé par un téléphone, une caméra, et ensuite ça se retrouvait sur Internet, alors qu'il s'agissait d'un propos comme ça, privé, dans le jeu de la conversation et
complice,
de l'exagération.
Complice, en plus, puisqu'il le disait à un immigré, enfin à...
Oui.
Donc à un
immigré, effectivement.
C'est ça, un immigré, ou un fils d'immigré, ouais. qui était tout à fait complice et pas du tout choqué par le propos.
Et alors cette façon d'aller prélever comme ça à l'insu des gens des phrases dites, on ne sait pas dans quelle intention, on ne sait pas exactement sur quel ton, c'est terrible parce que ça, du coup, ça interdit l'ironie, ça interdit l'exagération, ça interdit la conversation privée. Et d'ailleurs, je connais, c'est pour ça que moi je dis, j'exagère pas tellement. Je connais beaucoup de gens dans les milieux de la politique, de la culture, des médias qui font très attention aujourd'hui à tout ce qu'ils disent, à chaque virgule de ce qu'ils écrivent, parce qu'ils savent que la chose va pouvoir être retournée contre eux.
Benoît Dutertre, c'est le moment d'une page de publicité. Nous nous retrouvons très vite pour la séquence de vos petites madeleines musicales.
Dis,
Tu
te rappelles quand on était plus jeune, plus libre ?
Avant les enfants, tu veux dire ?
Oui, tu sais, on prenait la voiture et on partait n'importe où. La plage, la montagne...
Les sorties, les amis...
Les concerts !
Et ouais. Eh ben en fait, on n'a pas vraiment changé.
Ah ben non.
Vous êtes des parents, oui, mais pas seulement. Découvrez la nouvelle Golf Sports Van avec 5 étoiles au test Euro NCAP, régulateur de vitesse et système audio à écran tactile à partir de 17 190 euros. Détails de l'offre sur Volkswagen.fr.
Meurtre en majuscule. La nouvelle enquête inédite d'Hercule Poirot est l'événement de la rentrée. Dans un célèbre hôtel de Londres, 3 meurtres sont commis dans 3 chambres à 3 étages différents. Rebondissements, frissons, humour anglais, Meurtre en majuscule. Une nouvelle enquête du génial Hercule Poirot signée Sophie Hannah. Une sortie mondiale aux éditions du Masque.
Vous rêvez de vivre un grand moment d'émotion à l'opéra ? De redécouvrir l'une de vos œuvres préférées, interprétée par les meilleurs chanteurs du moment ? Avec Européra, offrez-vous les productions les plus prestigieuses et partez pour les grandes salles d'opéra en Europe. La Scala de Milan, la Fenice de Venise, Covent Garden à Londres, Vienne, Berlin, Barcelone. Européra, le premier abonnement d'opéra international. Appelez vite au 01 43 59 10 14 ou rendez-vous sur europera.com.
L'Auditorium du Louvre, situé sous la pyramide, présente sa nouvelle saison de concerts de musique de chambre avec Adam Laloum, le quatuor Modigliani, Edgar Moreau, le trio Wanderer, Sharon Kam, Behzad Abdourahimov. Abonnez-vous au concert et profitez de nombreux avantages dans le cadre prestigieux du Louvre, notamment l'accès gratuit au musée avec votre billet le jour du concert. La nouvelle saison de concerts de l'Auditorium du Louvre est à découvrir dès maintenant sur louvre.fr.
Le service funèbre de Rameau, dirigé par Skip Sempé, accompagné par Capriccio Stravagante, les 24 violons et le Collegium Vocalgant, Skip Sempé propose un enregistrement en première mondiale de la Messe des Morts de Jean-Gilles dans sa version parisienne de 1764. En concert à Paris, les 17 et 18 septembre à l'Oratoire du Louvre. Le service funèbre de Rameau par Skip Sempé, une nouveauté du label Paradiso.
En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. N'importe quoi. Brancher son portable, c'est simple.
Vous avez 54 nouveaux messages.
Je suis très demandé. Et brancher Zoé, c'est encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture et sa batterie, l'installation de la prise, pour vous brancher chez vous, et les câbles, pour vous brancher partout. À partir de 169 euros par mois, tout est compris. La nouvelle offre électrique Renault, c'est simple. Pour plus d'informations, appelez le 3023.
Offre réservée aux particuliers jusqu'au 2 novembre. Location longue durée 37 mois, 15 000 km maximum, si acceptation par Diakessa. Voir sur Renault.fr.
Vous écoutez Radio Classique.
18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Benoît Dutertre, merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie chez Gallimard de L'Ordinateur du Paradis, qui est un véritable régal. Je ne le dis pas souvent parce que j'ai toujours peur qu'on croit que... Oui, que je veux, soit je suis flagorneur ou j'ai quelque chose, un poste à obtenir. Là, je vous le dis du fond du cœur, c'est un régal. Moi, je trouve que ce livre est un chef-d'œuvre et j'espère de tout cœur que vous aurez le prix Goncourt. Fermons la parenthèse. Puisque vous êtes aussi musicien, en quoi vous êtes resté musicien ou vous le demeurez en écrivant?
Ça, c'est une question importante parce que souvent, j'ai remarqué, bon, on veut faire des parallèles entre l'écriture littéraire et la musique. Et donc, on va penser qu'effectivement, écrire, c'est faire de la musique avec les mots, etc. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, et notamment pour tout ce qui est la poésie. Et ce qui est vrai dans une certaine forme d'écriture romanesque, mais je pense pas que ce parallèle marche tellement bien. Je pense que parfois aussi une écriture trop envahissante, trop musicale, etc., peut aussi tuer un récit. Et moi, alors pour le coup, si je devais dire que j'ai des modèles ou des références musicales dans ce que j'écris, je dirais, vous voyez, je penserais plutôt à, je sais pas, mettons à Mozart à cause de la fluidité, quelque chose.
Quoi? Rien que ça.
Je me compare pas. Je dis comme modèle, comme principe, c'est d'aller vers quelque chose de très très fluide, qui a l'air complètement naturel et qui justement ne joue pas ou ne surjoue pas ces effets de style, si vous voulez.
Et qui reste.
Moi, j'aime
pudique aussi.
Voilà, j'aime atteindre une espèce de transparence. Je voudrais que le travail du style ne se voit pas et que ça s'écoule tout naturellement et que ensuite on s'aperçoive éventuellement que tout ça est construit, que tout ça est rythmé, que tout ça, mais qu'au premier abord, ce soit extrêmement fluide. C'est pour ça que je cite Mozart. Non, je me mets pas du tout sur ces hauteurs-là, je vous rassure. Mais voilà.
Quitte à se choisir des modèles, autant prendre les plus élevés.
Non, mais je veux dire une espèce de transparence, d'efficacité, de fluidité du récit. Moi, ce serait plutôt ça que d'essayer de faire de la musique avec des mots, ce qu'on a beaucoup fait en France au XXe siècle, évidemment avec des modèles gigantesques comme Proust, comme Céline, etc. Mais qui, moi j'ai parfois l'impression que c'est devenu un petit peu aussi une voix de garage, une écriture qui s'écoute trop écrire, etc. Et qu'il faut aussi réapprendre à raconter des histoires. Je dirais que par exemple, ça c'est peut-être musical, quand j'écris ce roman, je pense à l'écriture des phrases, mais je pense aussi beaucoup à la construction, à la forme, au rythme, etc. Ça c'est vraiment aussi des choses qui sont très importantes dans la musique et qui sont très importantes dans le roman. Et parfois, je regrette le roman contemporain est un peu trop omnubilé simplement sur la musique de la phrase et pas forcément sur la construction du récit, qui est pour moi quelque chose d'essentiel. Je peux vous dire, celui-là, j'ai beaucoup travaillé justement pour avoir une espèce de mécanique qui soit très très efficace, j'espère, dans la lecture et dans l'entrecroisement des deux histoires, celle du paradis et celle de la terre.
Benoît du Tertre, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première.
Amour divin, ardente flamme, Vénus Adonis, noir à vous, le feu brûlant, nos folles âmes, hélas ce feu n'est plus en nous, écoute-nous Vénus, Vénus la blonde, écoute-nous Vénus, la blonde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour.
La belle Hélène de Jacques Offenbach, dans une version de 1948 où l'on comprend tout, où il y a un charme inouï.
Oui, direction Jules Gressier. Offenbach, voilà encore un modèle pour moi qui vient de la musique et que j'aimerais un petit peu imiter en littérature, être un peu un Offenbach de
on l'appelait le petit Mozart des Champs-Élysées.
Du roman moderne comme ça, mais surtout, voilà, c'est un disque de mon enfance, c'est un disque qui était chez mes grands-parents, puis chez mes parents, et que j'ai beaucoup entendu, et qui m'a donné vraiment l'amour de cette musique d'Offenbach et de ce qu'on appelle l'opérette. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que, vous voyez, comme c'est beau, cette musique de la belle Hélène, j'ai pas entendu ça du tout au départ comme une musique faite pour rire. L'aspect satirique, je l'ai découvert dans un deuxième temps. Pour moi, c'était juste de la belle musique, Offenbach, c'était une espèce de flow musical. En fait, je connaissais pas tellement l'opéra parce que c'était pas non plus dans les habitudes. On écoutait plutôt la musique de chambre, la musique symphonique. Et pour moi, l'opéra, je l'ai découvert à travers la belle Hélène et comme vraiment une œuvre de belle musique. Et puis ensuite, également une œuvre très drôle, évidemment, qui parle de la société, comme j'aime, évidemment, aujourd'hui, dans tout ce répertoire d'opérettes françaises.
Vous avez perdu votre mère, Benoît du Tertre, récemment. Et si je le dis, c'est qu'elle est un des personnages du livre du narrateur. Je trouve que c'est un moment très, très émouvant, mais encore une fois, aucun pathos. Est-ce que le fait d'avoir, même si ce n'est pas vous, mais ce narrateur vous ressemble, vous vous investissez, vous l'incarnez, le fait de dire, d'écrire ma mère qui est au paradis, qu'est-ce que ça fait quand on est un écrivain?
C'est drôle, d'abord parce que ça me touche que vous parliez de ça, parce qu'elle adorait cette musique d'Offenbach, je dirais jusqu'à des moments où elle allait plus bien du tout à la fin de sa vie, où tout était devenu un peu flou pour elle, mais ça, ça restait comme une espèce de repère. Non, dans le roman, oui, j'ai l'impression de faire ça en m'amusant. Ça me frappe que vous me disiez que ça vous a touché ce passage, parce qu'en même temps, c'est quand même là aussi dans l'ordre de la farce, hein, puisque effectivement, mon personnage, Simon Laroche, tout d'un coup, on lui propose de communiquer avec sa mère avant d'être définitivement admis au paradis. Et voilà.
Bon, et elle s'y embête.
Et elle s'emmerde, comme elle dit. En vérité, on s'emmerde un peu, c'est ce qu'elle lui dit au téléphone. Et elle est là dans cette espèce d'hôtel de Dubaï avec un gros chinois qui est derrière elle en maillot de bain, un cocktail de fruits puisqu'on n'a même pas le droit d'alcool dans ce paradis-là. Et voilà, elle se décourage un petit peu.
Quelle horreur!
Mais en plus, moi, je suis très évidemment touché qu'on parle de ma mère, mais en même temps, mon personnage, il est pas tellement content parce qu'on lui dit tout est interdit, vous n'avez pas le droit de fumer, vous n'avez pas le droit de boire, mais par contre, vous allez pouvoir retrouver votre papa et votre maman, en langage bien de notre époque, parce qu'on dit plus père et mère, on dit papa et maman. Et tout d'un coup, il a l'impression que la seule chose qu'on lui offre comme un bonheur merveilleux, c'est une espèce de régression infantile vers quelque chose qu'il a essayé de dépasser durant toute sa vie. Voilà.
Benoît Dutertre, voici votre deuxième petite madeleine musicale. Que c'est beau, ce prélude de Claude Debussy, la fille aux cheveux de lin.
Parce que ma mère adorait aussi cette musique. Pourtant, j'ai pas pensé en la choisissant, mais voilà.
Elle était peut-être amoureuse de Sanson François.
En tout cas, c'est une très belle version. Que je connaissais pas tellement parce que ça a été un de mes premiers disques. C'était Monique Haas, pianiste qu'on a oublié aujourd'hui. Oui. Qui était la femme d'un compositeur, Marcel Mihalovici, et je m'étais fait... Ça a été peut-être mon premier achat de partition, ça a été les deux livres des préludes de Debussy, parce que j'ai aimé la musique à travers Debussy. J'ai fait beaucoup de musique avant Debussy, j'ai joué du piano, j'ai travaillé mes sonates de Mozart, de Beethoven, tout ce qu'on pouvait imaginer comme apprentissage de base du piano. Mais en fait, j'ai commencé à aimer la musique le jour où, à 15 ans, je suis tombé sur un disque de Debussy, et où j'ai découvert un monde musical, un monde sonore totalement différent, totalement étranger par rapport à ma culture classique, très en prise en même temps avec le monde moderne, avec la France, avec toute son cette imagerie des personnages de 1900 comme ça, qui m'a toujours beaucoup beaucoup fasciné. Et voilà, donc j'ai acheté très vite les préludes de Debussy, volume 1, volume 2, là, c'est dans le premier livre, La fille aux cheveux lins, puis je me suis fait offrir ses préludes au piano, et ça a été vraiment toujours, voilà, comme une espèce de complice pour moi, Debussy, quelqu'un. Il disait, vous savez, je vais écrire de la musique pour les petits enfants du 21e siècle. Alors moi, je suis né, en 60, et je m'imaginais un peu, voilà, comme un de ces petits enfants du 21e siècle, du 20e siècle, pardon, pour qui il avait écrit sa musique.
Vous êtes toujours, Benoît Dutertre, nostalgique d'un passé, que vous n'avez pas forcément connu, du reste.
Mais un âge d'or qui est faux, comme tous les âges d'or, sans doute, oui.
Mais disons que une France passée, une France où on savait ce que c'était que la politesse, l'art de vivre, où on n'était pas envahi par la technologie, par...
Mais je dirais pas seulement ça, moi je dirais je suis amoureux d'une France moderne, mais la vraie, c'est-à-dire celle qui a tout inventé
la fée électricité
entre 1850 et la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, cette France des inventeurs, de Clément Ader, cette France des impressionnistes, cette France des musiciens modernes, cette France qui a ouvert des chemins qui étaient extraordinairement finalement singulière, vivante, originale dans son époque. J'ai l'impression qu'au fond, la France d'aujourd'hui est plus conformiste, moins singulière et peut-être moins moderne d'une certaine façon que n'était la France de Debussy. Moi, j'ai toujours, c'est vrai, eu cette référence, en tout cas, à cette époque de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais bon, voilà. Après, on peut le rationaliser. C'est aussi simplement une sensibilité à un art, je dirais, à un art du plaisir, de la volupté, de la couleur, à un art de la poésie aussi, mais plus que de l'expression. Pourtant, j'aime aussi le romantisme, hein. J'aime Chopin, j'aime musique très expressive, mais là, il y a tout à fait un autre monde dans cette France de 1900 qui vraiment correspond pile à ma sensibilité esthétique. Je peux écouter n'importe quelle musique, pas seulement Debussy et Ravel de cette époque-là, dans la production française de ces années-là. Je me sens chez moi, si vous voulez. Et pareil avec la poésie d'Apollinaire, et pareil avec tant de choses de cette dite belle époque qui était sûrement pas, au demeurant, si belle que ça.
Benoît Duteur, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale.
Quand on vit au pays des Indes, il faut savoir parler hindou. Et pour ne pas passer pour une dinde, on doit prendre la vie par bon bout. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux à barbiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche. C'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta.
Ça aussi, ça a complètement disparu, cet esprit un peu potache, de comique troupier fernandel ici.
Alors là, c'est précisément, c'est dans un film qui s'appelle Les 5 sous de la Varède, film complètement loufoque. Hein. Fernandel a fait comme ça à la fin des années 30, des films vraiment un peu délirants, proches du surréalisme. Un cinéaste qui s'appelait d'ailleurs Jean Guiton. Et un jour, j'ai téléphoné au philosophe, très noble philosophe Jean Guiton, pour savoir si c'était lui qui avait fait ce film. Il m'a quasiment raccroché au nez. En fait, il y avait un homonyme, parce que j'écrivais un livre sur l'opérette à l'époque et je voulais savoir des petits tuyaux. Et non, alors il y a cette chanson sur Calcutta que j'adore et qui, en fait, était un truc que j'écoutais tout le temps avec mes amis quand on avait 15-16 ans. C'était bizarre parce qu'à la fois, on était pris dans tout le truc de l'époque, un peu gauchiste, etc. C'était au Havre, voilà, on allait beaucoup à la Maison de la Culture, voir les spectacles modernes, on était très politiquement comme il fallait. Et en même temps, avec mon meilleur ami de l'époque, on a développé à ce moment-là un goût pour les chansons de Bourvil, de Fernandel, etc., qui faisait que on nous regardait vraiment comme des provocateurs ou des types de mauvais goût, etc., parce que c'était pas du tout dans l'air du temps, et de Funès, bien sûr. Mais voilà, c'était spontané. On se sentait bien avec ça aussi. Et c'est vrai que Fernandel est une espèce de génie. Il y a une diction, ah oui. Sa façon de chanter, de moduler chaque refrain avec une petite intention différente. Et puis, cette chanson, elle me touche aussi beaucoup parce qu'elle est... La musique est d'un type qui s'appelle Casimir Oberfeld. Oberfeld qui a fait les plus belles chansons de Mistinguette aussi, Ça c'est Paris, etc. Qui a été un grand personnage de ce musical joyeux des années 30 et qui est mort en déportation à Auschwitz, enfin à la fin de la guerre. Et je travaille beaucoup en ce moment parce que c'est un sujet qui me fascine, ce basculement comme ça du monde de la légèreté, d'une espèce de joie de vivre parisienne à tout d'un coup l'horreur absolue. Le même personnage comme ça qui sort quasiment des Folies Bergères et qui se retrouve dans le train pour l'enfer, justement.
En même temps, Benoît Duteurt, vous luttez d'une certaine manière contre l'amnésie de notre époque qui dévore tout, qui balaye tout, qui consomme à vite. Vous nous dites, n'oublions pas, c'est alors sans aucun snobisme, c'est-à-dire Ces petits maîtres que nous avons oubliés, ben, ils sont encore là, et ce sont des trésors qui sont à portée de main.
J'avais écrit un texte que j'avais appelé « Esquisse d'un manifeste passéiste ». Et attention, l'idée n'était pas que je suis passéiste au sens le plus négatif du terme, c'était l'idée de mettre en avant que le passé est aussi intéressant que l'avenir. Je dis pas plus, mais aussi intéressant que l'avenir. Et qu'on est dans une époque qui veut toujours regarder juste devant. Il y a une phrase qu'a dite Saint-Saëns, que peut-être d'autres ont dit d'ailleurs, mais que j'aime bien. Vous savez, c'est dans chaque progrès, il faut mesurer ce que nous gagnons et ce que nous perdons. Mmh. Et c'est évidemment ça le sens aussi de ce que j'appelle le passéisme, c'est-à-dire aussi d'aller voir à chaque fois qu'on une révolution technique ou autre nous apporte quelque chose, aussi ce qui disparaît en même temps. Et c'est vrai que, je dirais surtout dans une époque où on a l'impression que le monde va un peu droit dans le mur, que les perspectives de l'économie, de la planète, de l'écologie sont un peu effrayantes, je vous dis, mais il y a tellement aussi de beaux voyages à faire. Si les voyages de l'avenir nous font peur, il y a aussi tellement de beaux voyages à faire dans le passé, dans les bibliothèques, dans les archives. On a ce bagage absolument extraordinaire qu'il faut continuer d'explorer, parce que ce sont des vrais voyages qui nous sont offerts aussi, voilà, en allant regarder un peu en arrière, comme disait Marcel Aimé.
Ou écouter, par exemple, c'est Liebeslieder Valseur de Johannes Brahms, oui, par Nadia Boulanger et son cher Dino Lipati.
C'est la veille que par ton livre, la série dit trop écrire. Hacke Schreibe mit dem Kriege, dieser Krieg des Flugertüre. Disponier dein Herz erweichen, wie du eine Liebe traffe, dass der Ohr der Traube wohnt.
Voilà, ces voix qui peuvent apparaître
comme démodées. Hein,
démodées.
Ouais.
Vous voulez.
C'est le premier réflexe. Oui, ça paraît démodé, mais c'est tellement beau, c'est tellement musical. Alors, il y a Dino Lipati et Nadia Boulanger au deux pianos. Et puis, il y a aussi la princesse Jeanne Polignac, qui était la grande amie de Poulenc. Il y a Doda Conrad, du Cueno. Enfin, c'est un quatuor vocal merveilleux. Et je trouve ça extraordinaire de sensibilité, de musicalité. Mais c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de cette façon de chanter. Il y a eu l'apparition dans les années 60-70 d'une nouvelle conception du chant, beaucoup plus instrumentale, beaucoup plus vocale, etc. Et on a perdu un peu ce lien au texte. Et donc la couleur de ces chanteurs qui étaient tellement proches du texte nous paraît aujourd'hui un petit peu bizarre parfois. Mais qu'est-ce que c'est beau, moi. Enfin, je trouve. Et alors, en plus, j'aime ça parce que je suis pas un fou de Brahms, mais comme disait Françoise Sagan, aimez-vous Brahms. Je veux dire, c'est vrai que Brahms n'a pas été tellement populaire en France jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, on joue beaucoup Brahms, mais là, ça fait partie vraiment de ces gens qui avaient une curiosité aussi pour la grande musique allemande de leur époque, malgré les contextes nationalistes et autres, et qui ont commencé à nous faire découvrir en France la musique de Johannes Brahms. J'adore ces valses. Ouais.
Pensez-vous, Benoît du Tertre, que l'on peut retrouver, pas imiter les voix d'Yvonne Brennan, ce serait ridicule de jouer l'aiglon comme Sarah Bernhardt, mais ne peut-on pas essayer de retrouver, c'est-à-dire que plutôt que d'imiter les Américains ou les chanteuses qui chantent Puccini et chanter le chant français de la même façon...
C'est un vrai problème. Ce qu'en font les baroqueux, mais les baroqueux, ils ont un avantage, c'est qu'il n'y a pas de disque. Nous, pour la période qui m'intéresse, tout ce chant du début du XXe siècle, on a beaucoup de documents, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'ai parfois l'impression, que si vous voulez, quand on écoute Yvonne Printemps ou Mistinguett dans un autre genre, c'est des voix qui sont pas seulement façonnées par une technique, c'est des voix qui sont façonnées par une société, par une manière de vivre.
Une nature.
Voilà. Mais donc ça, c'est difficile à imiter, je veux dire. On peut pas... pour chanter comme Mistinguett, il faudrait avoir vécu comme elle, d'une certaine façon, j'ai l'impression. Hein. Alors, voilà, il faut peut-être essayer quand même de s'en approcher, en tout cas avoir l'exigence du texte, mais on en est souvent très très loin aujourd'hui dans ce qu'on essaye de faire dans ce genre-là.
Quand je me
on se promène maintenant partout, j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Si l'anglais me dit I love you, je réponds mon petit vois-tu chez
toi. Mais vous imaginez une chanteuse d'opéra aujourd'hui essayer de faire ça, ou une chanteuse même de variété, ça paraîtrait ridicule.
Sauf si c'est un peu décalé.
Mais vous avez raison de citer les Anglais et les Américains, parce que par exemple, j'ai vu récemment ce merveilleux film sur Gilbert et Sullivan, qui est un film sur la carrière de ces deux grands maîtres de l'opérette anglaise. Et il y a encore d'autres films américains comme ça. Ils ont vraiment un goût pour reconstituer le musical de leur époque, que malheureusement, on n'a pas beaucoup en France. Il y a eu quelques petites tentatives, comme celle d'Alain René dans Pas sur la bouche, mais il y aurait vraiment des beaux films à faire pour essayer de redonner une idée de tout ce monde-là. Je pense que le cinéma y arriverait peut-être mieux encore que la musique, s'il en avait les moyens.
Pas, n'avons-nous, même si c'est en train de changer un petit peu, grâce, heureusement, au travail de Jérôme Deschamps et d'autres, ouais. Mais n'avons-nous pas eu un peu honte ?
Ah bah évidemment. Non mais.
Comme des vieilles tantes de province qu'on cache comme ça.
Bah il y a un truc terrible en France, oui, il y a une espèce de honte des Français vis-à-vis de leur propre culture, mais qu'il y avait déjà, c'est pour ça qu'on paraissait provoquant avec mes copains à 15-16 ans quand on écoutait De Funès et Fernandel, parce que c'était honni par toute la jeunesse intellectuelle. Tout ce qui était français était ringard, était fasciste, était franchouillard, etc. Je me rappelle avoir discuté comme ça avec un jeune homme comme ça qui me dit Maurice Chevalier, l'auteur de Valentine, la chanson Collabo. Alors vous voyez le raccourci. Valentine, ça date des années 20, on est très très loin de la collaboration. Maurice Chevalier, Valentine, bon, est allé chanter pour les soldats français en Allemagne, mais dire qu'il était collaborateur, c'est quand même une expression pour le moins très très exagérée. Il y a eu toute une idéologie quand même 68 tard et autres qui nous a asséné l'idée que la France était vraiment un pays pourri, dégueulasse, etc. Et là, moi, je suis pas d'accord, parce que j'aime l'esprit français, y compris dans ce qu'il a d'ailleurs d'insolent, de moderne, hein. Mais là, vraiment, je crois. Et également avec quelqu'un à la radio un jour. Ah oui, pardon.
Quand on voit passer le grand Prospère.
Merveilleux,
sur la
Chevalier.
Place Picade,
oui,
c'est
merveilleux. Et alors, oui, j'ai eu aussi la chanson Collabo une fois avec un technicien du son comme ça. Pareil, chanson Collabo, c'était pour Réventura, Madame la Marquise.
Ah oui.
Quand on sait que Réventura était juif, qu'il a passé toute la guerre en exil en Amérique du Sud, d'aller le qualifier de musicien Collabo, là aussi, c'est un petit peu gênant. Mais je pense qu'il y a eu dans cette idéologie d'après-guerre, c'est lié sans doute à la défaite de la France, mais il y a un truc dans l'inconscient français, mais il y a eu cette idée que la France était vraiment un pays qui était par essence collabo, et que tout ce qu'il y avait dans l'ancienne culture française était, en fait, avait simplement fait le lit de Vichy, comme ça, mais c'est pas ça, c'est plus compliqué. La France, c'est aussi le pays de De Gaulle, et la musique de l'entre-deux-guerres, c'est une musique extraordinairement libre, inventive, voilà.
Benoît Dutheur, nous allons nous séparer pour une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
Vous êtes bien sur Radio Classique avec Schubert.
Thank you. Du lundi au vendredi, sur Radio Classique, retrouvez Social Echo, présenté par Christine Quentin.
Je vous donne rendez-vous chaque matin avec le quotidien La Croix pour tout savoir sur l'économie et l'innovation sociale en action.
6h50 sur Radio Classique, Social Echo.
Avec la Fondation Caritas France, soutenez-nous par une donation temporaire d'usufruit.
En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. N'importe quoi. Brancher son portable, c'est simple.
Vous avez 54 nouveaux messages.
Oui, je suis très demandé. Et brancher Zoé, c'est encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture et sa batterie, l'installation de la prise, pour vous brancher chez vous, et les câbles, pour vous brancher partout. À partir de 169 euros par mois, tout est compris. La nouvelle offre électrique Renault, c'est simple. Pour plus d'informations, appelez le 3023.
Offre réservée aux particuliers jusqu'au 2 novembre. Location longue durée 37 mois, 15 000 km maximum, si acceptation par Diakessa. Voir sur Renault.fr.
Pour votre rentrée piano, la référence depuis 1924, Piano Dodé. Piano Dodé, c'est un espace de vente, de conseils et un atelier agréé. Venez nous rencontrer et découvrez l'ensemble de la gamme des pianos Yamaha. À la location ou à l'achat, vous trouverez le piano Yamaha de votre choix à partir de 56 euros par mois. Nos techniciens vous reçoivent dans nos espaces showroom de Paris ou de Saint-Germain-en-Laye. Voir conditions en magasin et sur internet piano-dodé.com.
Vite, il faut désactiver cette bombe ou on va tous mourir.
Oui, je sais, mais non.
Non quoi?
Non, c'est tout, non. Les plus grands films d'action passent sur les chaînes de CanalSat. Pourquoi pas nous? Moi c'est simple, hein. Soit on passe sur CanalSat, soit je fais tout péter.
Ciné+, OCS, Disney Cinémagique, CanalSat, une sélection unique des meilleures chaînes au monde. En ce moment, pendant la Power Rentrée, CanalSat est à partir de 15,90€ par mois pendant un an. Appelez le 3910. CanalSat, redécouvrez la télé. 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement.
Radio Classique et Le Figaro vous emmènent au cœur de la musique classique avec la collection Ève Ruggieri raconte.
Bravant les usages de la hiérarchie, Beethoven est le premier à revendiquer le droit au respect de l'artiste qu'il est.
Ève Ruggieri raconte, c'est chaque semaine un livret de 48 pages et deux CD de musique pour découvrir un grand compositeur et ses plus beaux chefs-d'œuvre. Cette semaine, Beethoven, le premier des romantiques, 9,90€ seulement chez votre marchand de journaux. Et retrouvez la collection complète à des conditions préférentielles sur figarostore.fr.
Je te dépose ?
Ah ouais, sympa, merci. Ah, nouvelle voiture. T'as changé de boulot, toi ?
Non, pas du tout, pourquoi ?
T'as eu une augmentation, alors ?
Non plus, non.
Alors t'as gagné à la loterie, je vois que ça.
Non, pas du tout.
Ouais, monsieur gagne le gros lot et il me dit rien.
Mais
ouais,
non,
super,
mais...
le pote. Ouais, sympa.
Arrête. Mais...
Le statut n'est plus une question de moyens. En septembre, le Tiguan TDI est à partir de 285€ par mois seulement. Location longue durée 48 mois, 60 000 km, après apport de 2340€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails de l'offre sur Volkswagen.fr.
Et maintenant, suivons un professionnel avec Gann.
Alain, restaurateur.
7h du mat, on est tous sur le pont pour une livraison. Le poisson le plus frais de la ville.
13h, c'est le coup de feu. Hein.
Des journées comme ça, on en fait depuis 12 ans. Faut avoir la santé. Alors quand je dois choisir une complémentaire santé pour mes salariés, je veux surtout pas me tromper.
La complémentaire santé devient obligatoire dans toutes les entreprises. Avec le suivi expert, Gann vous apporte une réponse. Place la bonne solution. Gann, assuré d'avancer. Rendez-vous chez votre agent général Gann ou sur Gann.fr.
Vous écoutez Radio Classique. Passion Classique. Avec Olivier Bellamy.
Benoît Dutert, vous n'avez peur de rien. Quand on écrit, il ne faut pas avoir peur.
J'espère. Enfin, si j'en juge parfois les réactions parfois véhémentes à tout ce que je fais depuis des années.
Exemple.
Je me suis quand même fait pas mal de.
Vous êtes fait traiter de révisionniste.
Oui, j'ai eu tout, oui, que ce soit pour mes romans, mes essais, parce que j'ai plaisanté, je sais pas, aussi bien sur le milieu gay que sur le monde du journalisme, que sur la. Divers aspects de la modernité, mais si on n'est pas là pour regarder notre époque avec insolence, je vois pas tellement l'intérêt. En tout cas, moi, c'est une tradition littéraire peu voltairienne, oui, comme ça, que j'aime. Voilà. Alors évidemment, à chaque fois, je peux augmenter la liste de ceux qui peuvent pas me voir en peinture. Et puis en même temps, j'augmente la liste de mes amis. Donc c'est très bien.
Et là, des associations féministes, j'espère qu'il n'y en a pas dans le Brégoncourt. Parce que là, vous allez être blacklisté. Il y a, je trouve ça tordant et ça va faire rire, beaucoup de, tout le monde, je veux dire. Il y a une association, nous, en tant que femmes.
Oui, voilà, qui pourchasse un peu mon héros après ces malheureux mots piégés dans une émission. Voilà, l'association nous en tant que femmes réagit, etc. Et voilà, il est même attendu à la sortie de son bureau avec des femmes qui crient shame on you et qui tapent sur sa carrosserie pour le punir de ses propos inadmissibles. Bon, je veux dire, avec les femmes, etc. Bon, moi, je trouve ça extrêmement antipathique. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de tout ça.
Mais pourquoi est-ce qu'on est traité de misogyne si l'on tourne en ridicule ça, une partie.
J'ai pas été traité encore de misogyne pour ce livre, ça va peut-être venir.
Ah bah ça va venir.
Mais moi j'ai essayé de réagir par l'humour, donc j'ai essayé de créer dans le livre une association qui réagit à ça, ces deux petits jeunes de banlieue qui montent une association nous en tant qu'hommes, et ils revendiquent tous les trucs les plus bêtes de l'homme. En tant qu'homme, on aime voir les femmes élever les gosses. En tant qu'homme marié, on aime conduire bourré, etc. Tous les trucs les plus vulgaires de l'homme qui s'opposent aux choses les plus brutales du féminisme. Alors il y a ces deux camps, et mon malheureux héros, il se dit vraiment qu'il n'est pas fait pour son époque, quoi. Qu'il a un pied dedans, puis un pied dehors, et il voit avec une espèce de consternation, voilà, cette espèce de réduction du débat, de la réflexion, etc., des caricatures.
Est-ce que c'est pas ça un petit peu le débat public aujourd'hui?
Bah, un petit peu, j'ai l'impression, oui, bien souvent. Ça m'amusait d'ailleurs de montrer ces deux petits jeunes qui montent nous en tant qu'hommes, qui sont plutôt sympathiques dans le livre, mais qui en même temps, eux, maîtrisent les instruments de leur époque, donc ils vont tout de suite créer un site, arriver à la télévision, et leur provocation est bien acceptée, parce que voilà, ils ont le style de la jeunesse qui est du monde de demain, tandis que mon personnage, qui au fond a un discours beaucoup plus nuancé, lui quoi qu'il dise, il se fait prendre au piège par tous les pièges de son époque, et voilà, il y a une espèce d'engrenage qui se referme autour de lui.
Vous avez choisi Petrushka de Stravinsky.
Thank you.
Le mélange du savant et du populaire avec « Elle avait une jambe de bois »,
oui,
cette
oui.
chanson française reprise par Stravinsky dans son Petrouchka. Et ça va faire plaisir à Pierre Boulez, que vous avez parfois un peu malmené, puisque vous l'avez choisi pour dire dans la version...
Oui,
là,
c'est un grand chef dans ce répertoire, il connaît très très bien Stravinsky, et puis ce Petrouchka, moi je suis toujours ému quand je passe au Châtelet. Les Français connaissent pas leur histoire musicale, de penser que ça a été créé là, dans ce théâtre du Châtelet. Je veux dire, à Vienne, on célèbre partout l'histoire musicale de la ville, à Paris, on a tendance un peu à l'ignorer, et voilà, Petrouchka, c'est un moment de bonheur musical extraordinaire de ce début du XXe siècle, qui vous l'avez compris, que j'adore.
Moi, j'ai l'impression que nous avons trop de beauté, un trop grand patrimoine.
Peut-être.
Les Anglais défendent leurs compositeurs, mais ils n'en ont pas tant que ça. Alors que nous...
Oui, mais on défend bien nos peintres, on défend bien nos écrivains,
c'est vrai.
On défend mal nos musiciens. Et c'est quand même triste, parce que l'histoire musicale de Paris est absolument fabuleuse. Les Français ont pris l'habitude de croire que la musique, c'était juste une affaire allemande. Et ils ont tort, la musique, c'est aussi une histoire française. Et Stravinsky en témoigne, parce que... Et voilà, pour montrer que l'histoire musicale de Paris, c'est pas seulement les compositeurs français, c'est le cosmopolitisme extraordinaire de cette ville.
Mais si ça peut vous rassurer, la dernière fois j'étais à Los Angeles, il y avait une radio classique à Los Angeles et on passait beaucoup de musique française.
Ah voilà, oui, mais les Américains, les Anglais, oui. quand même, ont oui. l'oreille pour ça mieux oui. que nous.
Merci beaucoup, Benoît Duteur,
merci beaucoup,
d'être
Olivier.
Venu ce soir à l'occasion de la sortie en direct. À l'occasion de la sortie de l'ordinateur du paradis chez Gallimard, qui a de fortes chances. Mais bon, non, on n'en dit pas plus. On croise les doigts pour le prix Goncourt. Merci aux auditeurs qui ont laissé leur message à Benoît Duteurtre pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur, Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet radioclassique.fr ainsi que sur votre smartphone ou votre tablette en téléchargeant gratuitement l'application Radio Classique. Je vous retrouve demain à 18h en compagnie de Dany Laferrière de l'Académie française. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.
Et il est 19h.